Merci à l'équipe de Louange. Et c'est un plaisir, une joie d'être ici de nouveau parmi vous. Je suis le petit frère de Samuel et j'aime bien courir des marathons. Et évidemment, il voulait voir si j'ai les bonnes priorités. Donc il m'a demandé de prêcher le jour du marathon de Toulouse. Donc, mais c'est pas mal, hein. Je pense que je préfère. On est bien, on n'est pas en train de galérer dans un marathon. On va être là à l'écoute de la parole. Merci à vous pour l'accueil, pour nous. Je fais partie de l'équipe à l'Institut biblique de Genève et on est vraiment content de pouvoir passer le week-end chez vous. Merci pour votre accueil, pour cette week-end leader jeunesse, cette formation pour les responsables de groupes de jeunes. Je m'occupe à l'Institut des étudiants en première année. J'apporte les salutations de Clément, qui est de cette église, qui passe, j'espère, une belle année. Il a l'air d'être bien content à l'Institut. Du coup, on va continuer notre série dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie. Du coup, je vous invite à ouvrir vos Bibles et trouver Néhémie, chapitre 2. Et je vais lire à partir de verset 11. Néhémie 2. À partir du verset 11. Alors, Néhémie, ça date, hein, il y a 2500 ans, cet homme, Néhémie, il a fait quelque chose vraiment extraordinaire. En 52 jours, il a mobilisé environ 40 équipes de personnes, des personnes non professionnelles, pour reconstruire, réparer, construire des murs de la ville de Jérusalem. Et on ne parle pas des petits murs, hein. C'est des murs, c'était entre 6 et 8 kilomètres de longueur, largeur plusieurs mètres. Ah, c'était un projet juste impressionnant. Dans un moment critique du peuple de Dieu, cet homme, il a pu lancer une vision et mobiliser les autres pour ce projet extraordinaire. Mais en fait, on voit, si on voit tout le livre ensemble, on voit que ce projet du mur est un peu le projet secondaire. Le projet bien plus important, c'est pas simplement de construire un mur, mais de construire un peuple, une communauté, d'aider les gens à vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Et on voit là, c'est vraiment la vision que Dieu a aujourd'hui pour son peuple. Et je pense en regardant Néhémie, on peut être inspiré par ce projet du mur, mais aussi pour ce projet plus grand d'être impliqué dans l'édification, la construction d'une communauté. Et peut-être vous êtes là et vous intéressez un peu au leadership. J'ai vu, il y a même un bouquin pour les chefs d'entreprise aujourd'hui qui s'inspire du livre de Néhémie, les principes de leadership d'il y a 2000 ans. Et c'est fort, hein. Qu'est-ce qu'il a fait était extraordinaire et ça peut être un bon exemple pour nous. Mais peut-être vous êtes là et le leadership, c'est pas trop ton truc. Tu vois un gars qui lance un projet de faire reconstruire les murs d'une ville. Et là, tu te dis, punaise, moi, j'ai du mal à bien ranger ma chambre. Je suis jeune. Ou j'ai du mal, j'ai des petits-enfants à la maison, et juste d'avoir le temps pour lire ma Bible, pour avoir un culte personnel. Déjà, ça, c'est un défi. Et peut-être de parler de leadership, de parler d'avancer, ça peut être finalement un peu décourageant. Et je vous encourage pendant cette série de regarder le fond de ce livre. Ce n'est pas juste les principes ou des exemples de leadership. C'est finalement le Dieu qui est au centre de la vie de Néhémie. Néhémie va témoigner que c'est Dieu et c'est Dieu qui est plein de bonté et puissance et qui veut agir au milieu de son peuple, qui est présent avec nous. C'est là où est vraiment la source de ses capacités et de son succès. Et lui, il est ici aujourd'hui, pour, avec nous aujourd'hui. Et il veut nous encourager. Et du coup, je vous invite à regarder avec moi ce récit qui est assez détaillé, assez concret et pratique, où Néhémie, il commence, il passe à l'action et mobilise ses frères et sœurs pour s'engager dans ce projet de reconstruire les murs de Jérusalem. Du coup, lisons Néhémie, chapitre 2, à partir de verset 11. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes que de sommes que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruines du Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où passer par la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous levons et nous nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Jusqu'ici, là, avec la parole de Dieu. Du coup, c'est une histoire très concrète. Un récit bien, bien pratique et je pense un bon exemple de comment Néhémie va encourager les gens à passer à l'action. Il ne faut pas oublier, Néhémie est vraiment un gars, un homme de l'action. Il n'a pas commencé par ça. Il a commencé avec un cœur brisé pour son peuple. Vous avez vu ça la semaine dernière. Et il a commencé par la prière. Il a passé des mois dans la prière. Mais là, on voit, il arrive et il va lancer dans ce projet. Avec vous, je propose qu'on regarde 5 choses, 5 éléments pratiques, concrets, qui peuvent être des encouragements pour nous, dans là où Dieu peut-être nous appelle à avoir un impact, une influence dans nos vies. Premièrement, Néhémie se repose. En fait, il sait se reposer. Et vous voyez verset 11, c'est quand même un détail curieux. Hein. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Alors, les commentateurs disent, c'est probable qu'il se repose pendant ces 3 jours. Alors, on voit par la suite, le projet va prendre une 52 jours. Donc, c'est un projet court terme. Un mois et demi. Et là, il arrive après un voyage de 1300 kilomètres. Il arrive enfin de Sus à Jérusalem. Il est là enfin sur le chantier. Et qu'est-ce qu'il fait? Congé 3 jours. Je sais comment vous, à vos postes, si vous êtes dans un travail professionnel et vous avez un projet très important devant vous, et souvent on peut pas s'arrêter. Hein. On est dans une, il faut tout de suite se lancer. Et je pense c'est intéressant ici que lui, il est pas dans un activisme de toujours. Il sait, il a des moments qu'on a besoin de repos. Il y a des moments de sabbat, de arrêter, de prendre une pause avant de se lancer dans un gros projet qui est très preneur. Il n'est pas contrôlé par le travail, par le projet. Il sait se reposer. Et donc, il passe 3 jours. Donc, il sait se reposer. Point un. Deuxièmement, il considère le problème de près. Et il avait entendu, son frère venait avec les actualités, les nouvelles de Jérusalem, et les nouvelles n'étaient pas bonnes. Son frère raconte, en fait, les murs sont détruits, il y a des brèches, des problèmes, et les gens à Jérusalem sont dans la vulnérabilité. Et là, ça fait vraiment quelque chose pour Néhémie. Il est découragé, il est brisé, et il dit, ok, je pars, je vais voir par rapport à cette situation. Mais là, c'est important, il tombe pas tout de suite, il se renseigne pas tout de suite avec les autres. D'abord, il veut voir le problème lui-même. Et je trouve c'est intéressant pour nous, souvent on entend des problèmes, on entend des soucis, et ça, c'est facile hein, de commencer à imaginer, à être pris dans un discours un peu négatif sur un groupe de personnes, sur une communauté, non? Même sur la société. Je faisais à Genève des soirées discussion avec mes amis qui couraient avec moi. Et on parle un peu, c'était pas un contexte chrétien, je trouvais intéressant de discuter sur les thèmes un peu liés à la foi, mais d'avoir les différents points de vue. Et je trouvais intéressant que chaque personne avait des visions très différentes du monde. Mais ce qui est ressorti très vite, qu'on avait tous un discours très négatif, un peu sur la société. Les gens qui étaient une vision de gauche disaient « Ah, la société, ça se dégrade de plus en plus, c'est n'importe quoi. » Et même d'autres qui avaient une vision très différente de droite disaient « Ah, c'est la même chose, la société, c'est vraiment n'importe quoi. » Et je pense que c'est facile. Hein, je trouve, même les chrétiens peuvent avoir un discours très, très pessimiste sur les situations. Néhémie, il va confronter la réalité, mais il va la voir de près. Il va, lui, tout seul, il va prendre un cheval et puis il va faire le tour, il va voir de lui-même. La nuit, tout seul, il va se renseigner quel est vraiment l'état des choses. C'est juste les discours pas que les autres partagent, je veux voir moi-même quel est vraiment le problème. Et c'est pour ça qu'il raconte, j'ai fait tout le tour, j'ai voir tel endroit dans la ville. Mais regardez verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, etc., vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Il ose voir une des situations plus douloureuses ou l'effet d'une des situations plus douloureuses pour le peuple de Dieu. Écoutez, je vais juste lire quelques versets de Lamentation de Jérémie, le prophète. Jérémie qui avait vu la destruction de Jérusalem, il raconte cela, Lamentation chapitre 2. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil, rempart et muraille. Suite au péché et aux rébellions de son peuple. Donc ces murs, ça représentait quelque chose de très très fort. L'échec, le péché. Et Néhémie, il vient et il veut voir lui-même de près. Il ose aller jusqu'au fond, disons, du problème. De voir quel est vraiment l'état. Et je trouve fort que Néhémie, le gars qui arrive de loin, il habite dans une autre ville, il ne vient pas de Jérusalem, il avait grandi à Sousse, il avait passé des années à Sousse de toute façon. Il revient de loin et Néhémie, il a une vision plus juste de la situation après une nuit que les gens, les responsables, les gouverneurs qui étaient sur place. Il était frappé par cette situation malheureuse dans laquelle le peuple de Dieu se trouvait. Et c'est quand même fort, hein, que lui, il arrive de loin, il débarque, il voit lui-même, et là, il constate, oh, et les gars, il y a un problème grave. Il constate la réalité, le fond du chose. Et je pense, pour nous, parfois, On a besoin de ce recul. Embêtre, quand on habite à Jérusalem, parfois on n'est pas conscient du fait qu'il y a des murs qui sont détruits. Il y a des vulnérabilités parmi les gens. Parce que ici, on n'a pas des murs pour, il n'y a pas des murs qui entourent Toulouse, hein. C'est pas un souci, hein. On a notre manière de faire. Mais vous savez, à l'époque, l'importance des murs d'une ville, ça protégeait la communauté, ça permettait une sécurité. Et vous savez, comme ça, la vie, quand vous ne vous sentez jamais en sécurité, c'est terrible, hein. Et c'est sûr terrible pour qui? Pour les plus faibles, pour les plus vulnérables. Et souvent, dans nos vies, dans nos communautés, on peut s'habituer à une manière de vie où on oublie, on met un peu de côté ceux qui sont plus vulnérables, ceux qui sont plus faibles, là où il y a un manque de sécurité qui permet l'épanouissement de la communauté ensemble. On s'habitue à nos routines, nos vies. Et là, Néhémie, il vient de loin et il voit, ah, cette ville qui avait une mission de proclamer la gloire et le nom de Dieu, les murs sont détruits et c'est pas normal. Mais finalement, c'est pas le recul géographique finalement. On sait par, dans la prière de Néhémie, la semaine dernière, en chapitre 1, il prie en lien avec la parole de Dieu. Il cite Deutéronome. Et du coup, il est rempli, il est inspiré par la parole que Dieu avait déjà donnée. Et c'est ça qui a cette vision par rapport à Jérusalem. Et pour nous aussi, souvent, on a besoin d'être renouvelés, hein, dans notre intelligence, de voir de nouveau la réalité qui est juste en face de nous et de voir vraiment le fond du problème et de le voir de près. Parce que vous savez très bien, si on ne voit pas le vrai problème, la solution derrière va être superficielle. Une vision superficielle du problème va générer une solution superficielle. Et Dieu nous demande et nous encourage à voir vraiment le fond du problème et le regarder de près. Donc deuxième chose. Troisième chose, Néhémie, il aide les autres à voir la réalité du problème. Lui, il a fait son devoir, hein. Il a fait ce tour en secret, à nuit. Mais regardez verset 17. Il rassemble les autres, les responsables, et il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Il est honnête, il est cash. Vous voyez le malheureux état. C'est pas, il va pas minimiser, hein. Il va dire les choses. C'est grave, cette situation. Cette ville, elle est détruite. Ses portes consumées par le feu. Mais après son appel, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est fort, hein. Lui qui vient de loin, lui qui a cette regard un peu extérieur, il s'identifie avec le peuple. Nous, venez, rebâtissons la muraille et nous ne serons plus dans le déshonneur. C'est quand même fort parce que Néhémie, il venait de Sus, une grande ville bien loin. Et en chapitre 1, Sus est décrit comme la capitale. Le mot en hébreu veut dire citadelle. Alors c'est quoi une citadelle? C'est comme une forteresse, hein. Et une forteresse, une citadelle, c'est une ville avec des beaux murs, non? Avec des remparts bien protégés. C'est là sa ville d'origine. Il arrive et il s'identifie avec une ville avec des murs détruits, en difficulté. Il dit nous. Et je pense que c'est ça le défi de souvent voir les problèmes, mais après d'identifier avec d'autres et dire venez, rebâtissons la muraille. Avançons ensemble. Il y a des soucis, il y a des problèmes, mais ensemble, venez, on va cheminer, on va avancer ensemble. Et il met l'accent, je pense, dont il parle de cette déshonneur, cette opprobre, de quelque chose bien plus grand que juste la sécurité pour les faibles et les vulnérables. Pourquoi cette déshonneur pour la ville de Jérusalem? Ben finalement, c'était parce que Dieu avait choisi Jérusalem pour l'endroit où il allait placer son nom, son identité, sa gloire. Et donc, la ville de Jérusalem où les faibles, les vulnérables n'étaient pas protégés, n'étaient pas en sécurité. C'était pas juste une question des pauvres, c'est une question de Dieu, c'est une question de la gloire de Dieu. Cette ville avait comme mission de rayonner, d'être un témoignage de qui Dieu est, qui Dieu était. Et du coup, Néhémie dit, les gars, on doit avancer parce que l'enjeu ici, c'est Dieu et sa gloire. Venez, rebâtissons ces murs. Passons à l'action parce que c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Allons, avançons ensemble. Troisième chose. Quatrième, il aide les autres à voir la réalité de la bonté de Dieu. Que finalement, la bonté de Dieu est encore plus grande que les soucis et les problèmes. Et c'est ça qui déclenche l'action. Qu'on est convaincu que finalement, la grâce et l'amour de Dieu sont encore plus grands, plus puissants dans nos vies que les difficultés, même les échecs, même les situations, des souvenirs très douloureux que Néhémie avait constaté, ces portes consumées par le feu, ces murs détruits, ces preuves du péché et de rébellion de son peuple. Et ici, regardez verset 18, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Ah, c'est beau. Il met pas un fardeau de culpabilité. Ah, les gars, vous êtes là à Jérusalem, vous auriez dû savoir faire quelque chose. C'est n'importe quoi. Il faut reconstruire ces murs. Pourquoi vous n'êtes pas encore mis à l'action? Pourquoi? Il dit, j'ai déjà vu la bonne main de Dieu sur moi. Je peux témoigner, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire déjà dans ma vie. Il a répondu à mes prières. Je viens avec un financement du roi. C'est possible. Allons-y, les gars. La bonne main de Dieu est sur nous. La bonté de Dieu va nous motiver. La grâce, l'amour de Dieu va nous aider à avancer face à ce défi. Et je pense que la preuve qu'ils ont bien capté, la preuve que Néhémie est quand même un bon leader, c'est la réponse du peuple. Vous voyez le verset suivant. Ils dirent. C'est pas le discours plus de Néhémie. C'est le peuple, ils dirent, levons-nous. Levons-nous et bâtissons et se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et je pense que ça nous aide quand on capte, on voit nous-mêmes. Oui, c'est vrai. On a des soucis, des problèmes, des difficultés, mais la grâce et l'amour de Dieu, elle est là, ils sont puissants et avançons. On peut le faire. Levons-nous et bâtissons. Néhémie a aidé les autres à voir la réalité de la bonté de Dieu, qui était une source d'encouragement et de force pour les projets. Cinquième et en dernier, Néhémie persévère face à l'opposition. Alors, si on va faire des projets, si on va entreprendre les choses pour Dieu, si on va bouger, si on va passer à l'action, je vous promets, il aura l'opposition. Ça a des bases. Je pense que vous connaissez bien. En Asie, ok. Levons-nous. Je vais m'engager dans telle chose, et tout de suite, hop, difficulté, tout de suite, l'opposition. Et c'était la même il y a 2000 ans, 2500 ans. Et c'est intéressant, ces trois personnes. Donc, Sanbala, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite, et Gershom, l'Arabe. On ne connaît pas beaucoup de choses sur ces trois personnages. Mais ce qui est intéressant, Sanbala, on pense qu'il était le gouverneur de Samarie, la ville de Samarie. Et c'est-à-dire que les peuples qui continuaient à louer, adorer le Dieu d'Israël, Yahweh, mais ils avaient ajouté d'autres religions. Donc c'est une espèce de compromis, de mélange. Oui, c'est très bien Dieu, c'est très bien Jésus, mais on va mélanger d'autres croyances. Et c'était pas clair. Donc oui. Et donc, lui, c'était en opposition. Après, on a Tobija, serviteur ammonite, Et on pense qu'il était quelqu'un, serviteur, était peut-être dans, lié avec les pouvoirs ammonites, notre peuple. Et par les traces archéologiques, il se peut qu'il était un homme riche, avec beaucoup de biens, beaucoup de, un homme avec beaucoup de terres, etc. Donc peut-être lui, il représente vraiment cette, le matérialisme. Un homme riche avec beaucoup de biens, et lui, il n'est pas content non plus que Jérusalem et les Israélites se mettent en action. Et finalement, Guershom, lui, il était un roi carrément d'un royaume, un pouvoir politique, séculier. Et je pense que l'opposition, ça vient des endroits différents, hein, des choses. Ça peut être quelqu'un qui se dit chrétien, ou des personnes qui se disent chrétiens, mais finalement, il y a un compromis, il y a un mélange. Et mais l'opposition, pour ceux qui veulent se tenir ferme, se tenir dans la vérité unique qu'on voit dans la Bible. Ou parfois, c'est juste le matérialisme. La richesse des autres qui gèrent très bien leur vie, sont dans le confort. Et là, on est en train de lancer un projet pour le bien du peuple de Dieu. Et là, ils peuvent être aussi une sorte de découragement. Ou peut-être c'est juste les choses plus, les pouvoirs, soit les autorités ou d'autres autour de nous, qui peut nous mettre une pression, qui peut être contre nous, et qui peut être vraiment les sources de découragement. Et ça va venir, c'est normal. Et comment il répond, Néhémie ? Verset 20. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux. Le Dieu qui est bien au-delà de toute puissance humaine, de tout pouvoir, soit le matérialisme, soit le compromis, soit juste les autorités politiques. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il est généreux, il est plein d'amour. Tu sais, à la base, ce mot donne, c'est aussi l'idée de grâce, de donne ce que nous ne méritons pas. Ce Dieu, il nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et il continue. C'est un beau récit, hein? Néhémie, ce leader qui arrive, qui lance cette vision, qui voit le problème, qui encourage le peuple et qui voit cet élan. Et le peuple se met en mouvement et c'est vraiment magnifique. Les prochains chapitres, on va voir tout le peuple en train de construire, reconstruire la muraille, les murs de Jérusalem. Et c'est juste une image magnifique, je trouve. Chaque personne, ils ont leur coin, ils ont leur petit groupe, leur cellule de maison, un peu, disons. Mais ils travaillent sur le même projet. Forcément, un mur. Tu veux pas faire, OK, moi, je fais mon bout ici, et l'autre gars, il fait ici. S'il n'est pas connecté, ça sert strictement à rien. Hein. Il faut que ça soit connecté. Il faut que ça soit le même projet ensemble pour le bien de la ville. Et là, Néhémie, il lance ce projet et le peuple se met en action et c'est vraiment beau. En même temps, le livre de Néhémie, c'est un peu bizarre parce qu'à la fin du livre, on voit le mur est terminé, ils ont eu du succès, mais il y a encore il reste des problèmes dans la communauté et à la fin du livre, ces problèmes ne sont pas tout à fait résolus. Et donc le livre termine un espèce de bémol, on dit... Super, le projet du mur, terminé, bien, culte d'installation, génial. Mais, dans la communauté, c'est pas si simple que ça. Et je pense que, comme vous savez, nous, c'est aussi ça le projet devant nous, c'est pas juste de construire quelque chose physique, mais s'être impliqué dans ce projet de Dieu pour construire une communauté des personnes rachetées par lui, pour vivre ensemble pour sa gloire. Et ça, finalement, est bien plus difficile. Bien plus difficile juste de construire un projet physique. Et je trouve que c'est beau parce que Paul, quand il parle de l'Église, en fait, j'étais pasteur avant, et je me souviens quand j'ai commencé mon poste pastoral, je me suis dit, alors, on est en train de réfléchir par rapport à la vision de l'Église. Et je me suis dit, j'aimerais bien un peu repartir page blanche. Quelle est vraiment la vision dont on voit dans le Nouveau Testament de l'Église? Donc je me souviens, j'ai fait toute une étude, j'ai regardé chaque verset qui parle de l'Église, j'essaie de vraiment avoir des idées inspirées par le Nouveau Testament, par la Bible. Et une chose qui est ressortie, qui m'a quand même frappé, c'est de voir à quel point l'apôtre Paul, quand il parle de l'Église, ils utilisent un verbe régulièrement. Et le verbe, c'est le verbe édifier. Édifier, hein, c'est le mot qu'on utilise un peu dans l'Église. Hein. L'édification, s'édification, etc. Ça veut dire quoi, édification? En fait, le mot en grec, c'est tiré du monde du bâtiment, en fait. Le mot veut dire construire. Construire. Et quand Paul parle de l'édification, il parle du fait que chaque personne dans l'Église est appelée, est invitée à jouer un rôle, à être un bâtisseur, à être dans le bâtiment spirituel, qu'on a cité ce matin, d'être des pierres vivantes qui, ensemble, créent quelque chose, font quelque chose. Et je pense souvent, on est d'église, on vient à l'église, on écoute, on chante, etc. C'est super. Mais la vision derrière l'apôtre Paul, c'est qu'on est des travailleurs. On est vraiment comme cette image en Néhémie, où Dieu nous invite à participer à la construction, à l'édification de son peuple. Alors, si le projet est bien plus grand aujourd'hui qu'à l'époque de Néhémie, est-ce qu'on peut être encouragé? Où trouver notre source d'encouragement pour projet qui est parfois pas évident et difficile? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul et d'autres, quand ils parlent de l'édification, ils ramènent très vite à la base, aux fondations, à la pierre, disons, angulaire, qui soutient tout le reste du bâtiment. Et c'est un verset que vous connaissez bien, mais je veux juste relire en Éphésiens, où par part de ce projet de l'Église, ce projet de Dieu, il dit, vous êtes intégrés, je lis en version Bible en français courant, vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et la fait s'enlever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Voyez le projet? Nous, le peuple de Dieu, personnes qui sont invitées à comprendre la grâce de Dieu, ensemble, nous formons un temple pour le Dieu vivant. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on soit clair sur cette fondation, cette pierre, la base. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est ça qui tient tout le reste. Sans ça, ça ne tient pas du tout. Sans ça, ça va être fragile, on ne va pas avancer. Et tu sais, c'est Jésus finalement qui nous aide à voir vraiment la réalité en face. Quand c'était Jésus à l'évangile, ce n'est pas un message ni pessimiste, ni optimiste. Dans le sens que Jésus, il nous aide à voir la gravité de nos problèmes. Que sont dans nos vies, il a des brèches, des soucis. Et lui, à la croix, par son discours, il est très honnête avec nous. Nos problèmes dans nos communautés, dans nos vies sont problèmes graves. Il s'agit d'un cœur qui est rebelle contre Dieu. Il s'agit d'un péché qui est souvent toujours là. Le besoin de cheminer, le besoin de reconnaître nos problèmes. Et Jésus, comme rien d'autre, il nous aide à comprendre qu'on est encore plus pécheurs qu'on peut imaginer. On a plus de progrès peut-être qu'on imaginait. À la croix, on voit que oui, cette réalité du péché, du problème chez nous, du cœur humain est vraie. Il nous aide à voir de près. Mais en même temps, ce n'est pas un message pessimiste, finalement. Parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, il nous aide à voir que Dieu a déjà lancé le projet. Dieu est le Néhémie ultime qui nous vient aider. Venez, baptisons, parce que la bonne main de Dieu est sur vous. Et je peux prouver parce que je suis mort pour vous. Je suis mort pour toi. Je suis ressuscité pour toi. Et comme ça, on peut être assuré, oui, la bonté de Dieu est finalement plus grande, plus puissante que nos échecs. Même nos souvenirs plus douloureux, nos manquements, les brèches dans nos murs, dans nos communautés, Christ est ressuscité et dans ce monde, il a lancé une mission de faire construire un peuple qui rayonne avec sa gloire. Je pense que lui, il soit la base, soit la fondation, ça nous aide à retrouver la vraie motivation pour donner, pour avancer ensemble dans sa grâce. Je termine avec ça. Je suis responsable, comme dit, à l'Institut biblique de Genève, et on fait une année. Moi, je suis responsable du programme de la première année où tous les étudiants viennent et passent une année ensemble. Et du coup, moi, je vois, je suis comme un pasteur pour une église qui a une durée d'un an. Ça c'est curieux. Hein, et puis chaque année, ça change. Et c'est vrai que je vois à quel point les étudiants viennent, ils disent « Ah, c'est l'Institut biblique de Genève, c'est génial, on est tous chrétiens, on est tous motivés pour passer un an dans la théologie, ça va être nickel, top !» Et puis en venant, en formant une communauté proche, en fait, vous savez quoi? On découvre que parfois les murs sont pas si bien que ça, il n'y a pas des soucis dans nos vies, de l'orgueil, des jalousies, des situations de conflit. Et je vois à quel point, de nouveau, après 3 ans, si Jésus n'est pas la base, la fondation, le centre, on peut vivre vraiment des déceptions assez fortes. Parce que cette communauté, ça ne tient pas tant qu'on n'est pas ancré dans la preuve ultime de la bonté et la grâce de Dieu. Mais si Jésus reste le centre et il nous aide à voir, à être honnête avec nous-mêmes, à accepter d'être confronté avec nos échecs, nos soucis, les choses où on doit cheminer et progresser, parce que c'est lui seul qui nous rassurait de sa grâce, de sa bonté, qu'il nous accepte, qu'il est pour nous, et il nous libère vraiment de dire « Alors, avançons ensemble ». Et c'est beau, hein, c'est beau voir à l'Institut, souvent vers la fin de l'année, les étudiants qui avancent dans les nouveaux, disons, des nouveaux domaines, des choses dans leur vie qui s'étaient révélées pendant l'année, et ils cheminent, ils avancent, et c'est juste magnifique. Et ça aussi, j'imagine comme ça, dans une église locale, dans les relations, dans vos mariages, dans vos foyers, que Jésus reste le centre, et qu'il soit vraiment une source d'inspiration, afin que vous puissiez dire, oui, je me lève, je me lance, avançons ensemble pour la gloire de Dieu, parce que Christ est la pierre angulaire. Je prie. Seigneur, par ton esprit, aide-nous à avoir une vision juste sur nos vies, sur nos communautés. Et Seigneur, sois un moteur afin que nous puissions passer à l'action comme tu veux, selon ta volonté. Seigneur, merci pour la mission que tu nous as confiée, d'être celle et lumière, de construire, de faire partie de ce peuple. Seigneur, je prie, juste, même dans cette église, que les dons spirituels, que les choses que tu avais mises sur les cœurs des uns des autres puissent avoir une pleine liberté. Et Seigneur, que cette église, cette communauté puisse croître, puisse rayonner, puisse vraiment manifester pleinement ta vie pour ta gloire. Je prie ça dans le nom puissant de Jésus. Amen.